Hors cadre, les podcasts décalés du magazine Qui. Jean-Christophe Attard est parti à la rencontre du metteur en scène François Orson et de sa compagnie Le Théâtre de Nénéka, en pleine préparation de leur pièce Coriolan de William Shakespeare.
Encore une fois, vous allez répondu à l'appel de notre idéal commun, vos clameurs joyeuses qui auront, j'espère, ranimé le courage des plus isolés, des plus abandonnés, des plus humiliés, qui ont en vous la force et la puissance de tenir la tête droite.
Peuple de France, lève-toi contre ceux qui ont si peu de considération pour la défense de notre civilisation, qui ont dénigré ton histoire, ta culture, tes traditions.
Mes chers amis, belle jeunesse française, bonsoir à tous. Merci, merci d'avoir répondu à l'appel et merci d'être venus aussi nombreux. Vous pouvez compter sur moi, jeunesse française, la France est fière de toi.
La parole politique est-elle par nature fallacieuse et démagogique? Tout homme aspirant à conquérir le pouvoir ou à s'y maintenir est-il voué à perdre sa liberté, ses convictions ou son âme pour séduire le peuple et l'entraîner avec lui? Ce même peuple, si prompt à exiger de ses dirigeants transparence et vérité, n'est-il pas en même temps toujours en quête d'une parole caressante et prometteuse pour adhérer au discours de celui qui réclame ses suffrages? Guerrier héroïque d'une Rome antique meurtrie par la guerre et la famine, Coriolan arrive aux portes du pouvoir et se heurte brutalement, douloureusement, à ce dilemme démocratique. Dernière tragédie écrite par William Shakespeare, Coriolan est la pièce politique par excellence, celle qui touche à la fondation et au maintien du pouvoir. Deux questions centrales qui traverse chacune des mises en scène de François Orson, qui livre ici le dernier acte de sa trilogie consacrée au théâtre politique.
Les langues de la bouche commune, je les méprise, car ils se pavanent dans leur pouvoir, défiant toute noble patience.
On ne passe pas.
Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ?
Il serait dangereux d'aller plus loin, n'avancez pas.
Pourquoi ce revirement ?
Que se passe-t-il ? N'est-il pas l'élu des nobles et du peuple ?
Non.
Ai-je obtenu des voix d'enfant ?
Le peuple est enflammé contre lui, arrêtez ! Où tout va finir par une émeute.
Voilà votre troupeau. Sont-ils dignes de s'exprimer ceux qui accordent leur voix pour aussitôt récuser leur langue? Quel est votre office? Si vous êtes leur bouche, gouvernez leurs dents. C'est vous qui les avez lâchés.
Je m'appelle François Orson, je suis metteur en scène de théâtre et j'ai créé en 1999 à Ajaccio ma compagnie qui s'appelle le Théâtre de Nénéka. Voilà, on fait des spectacles depuis maintenant donc 23 ans, que nous créons et travaillons en Corse le plus possible, et puis nous jouons aussi dès que nous pouvons, bien évidemment, sur le continent et où nous pouvons dans le monde. Bah, au départ, c'était juste de créer La mort de Danton, un texte de Büchner sur la Révolution française et sur la relation entre Danton et Robespierre. Et puis, en créant ce texte, j'avais des textes que j'aimais beaucoup. Un texte de Leonardo Sciascia, le romancier sicilien. Et puis, ce texte de Shakespeare, Coriolan, qui est vraiment sans doute la pièce la plus politique de toute la dramaturgie occidentale. Et c'était des textes qui étaient en moi, que je lisais régulièrement. Et puis, petit à petit est venue l'idée de les associer, enfin de les associer dans un temps assez long, puisque ça fait maintenant 6 ou 7 ans qu'on est sur ce projet, et de créer comme ça une trilogie théâtrale qui aurait pour objet d'illustrer ce qu'est la politique au théâtre. Alors bon, c'est un petit peu vague comme idée, mais c'est quelque chose qui pour moi a toujours été essentiel, d'avoir un théâtre qui soit toujours très politique, au sens où il montre des choses politiques. Il ne prend pas parti pour une chose plutôt qu'une autre, mais il donne aux spectateurs la possibilité de se faire son opinion. Voilà, ce travail sur le libre arbitre de chacun est pour moi une des fonctions essentielles du théâtre.
J'ai versé mon sang pour mon pays, sans craindre les armées étrangères, et mes poumons continueront à forger des mots contre ces lèpres dont nous redoutons la contagion, mais dont nous avons, tout fait pour attraper l'infection.
Vous parlez du peuple comme si vous étiez un dieu pour le punir et non un homme infirme comme lui.
Nous ferons bien d'en informer le peuple.
De quoi, de quoi? D'un accès de bile?
De bile? Même si j'étais aussi calme que le sommeil de minuit, par Jupiter, ce serait encore ma façon de penser.
Cette façon de penser empoisonnée, il faut qu'elle reste où elle est.
Il y a quelque chose dans ce projet, bien évidemment, qui est de faire un écho à ce que nous vivons. Je pense que, et c'est la qualité des très grandes œuvres, et c'est pour ça qu'elles passent le temps, c'est que à toutes les périodes, une œuvre comme celle-ci a été, avait une espèce de grande pertinence. Par exemple, dans les années 70, cette pièce, elle était beaucoup montée en Allemagne, et en Allemagne de l'Est, et en Allemagne de l'Ouest, parce que elle peut basculer dans un camp plutôt que dans un autre en un clin d'œil. C'est-à-dire que ça peut devenir une pièce de droite comme ça peut devenir une pièce de gauche. Donc en RDA, tous les Bertolt Brecht et les communistes la montaient et ils glorifiaient le peuple. Et puis ils faisaient de Coriolan une espèce de dictateur tortionnaire. Et puis les gens de droite disaient ce peuple minable, la multitude des voix, c'est ingérable, etc. Et il vaut mieux avoir une espèce d'homme politique plus puissant, etc., etc. Et que la démocratie peut être susceptible d'être en tous les cas critique. Ce qui en Allemagne est assez historiquement vrai, comme c'est Hitler qui a pris le pouvoir avec la démocratie, il y a des antécédents. Et aujourd'hui, je pense que ce qui la rend très pertinente, effectivement, c'est le rapport à la démagogie, c'est le rapport au mensonge, c'est le rapport à la surcommunication dans laquelle nous vivons. Et c'est aussi une pièce, et c'est ça, enfin, entre le moment où j'ai voulu la créer aujourd'hui, il s'est passé une chose qui est le Covid. Et Shakespeare a écrit cette pièce en pleine pandémie de peste. Et donc, ce que raconte Shakespeare dans cette pièce, et il utilise la fable de Plutarque pour ça, de Coriolan, mais ce qui est intéressant chez Shakespeare, c'est qu'il y a une épidémie de peste. Donc, cette épidémie de peste a pour conséquence une grande famine, et la pièce commence avec la famine, c'est-à-dire une révolte populaire liée à la famine, à des revendications parce que le peuple a faim. Et de ces revendications, il y a une très grande violence de la part du pouvoir en place qui met en place une politique de répression totale.
Ils ont cédé à nos exigences, ainsi nous rabaissons la dignité de nos sièges et laissons la canaille traiter de frayeur. Notre sollicitude un jour viendra où ils feront sauter les portes verrouillées du Sénat et on verra alors les corbeaux piquer les aigles à coups de bec.
Allons, assez.
Assez, vous passez la mesure.
Non, prenez ça encore. Que toutes les puissances divines et humaines sur quoi se fondent les serments scellent mes dernières paroles. Quand l'un des deux partis méprise à bon droit, quand l'autre insulte sans raison, quand noblesse, rang, sagesse ne peuvent rien conclure sans le oui ou le non, de l'ignorance populaire ce double pouvoir ne peut manquer de négliger les véritables intérêts du pays et ouvre la voie à l'instabilité et à l'indécision, toute entreprise étant contrecarrée. Plus rien n'est entrepris.
J'ai toujours des pièces qui sont assez chorales, avec des grandes œuvres comme ça. La mort de Danton, c'est pareil. Il y avait 30 ou 40 rôles. Aujourd'hui, on n'a plus l'économie de ça. Et puis, c'est aussi un rapport à l'illusion, un peu comme en peinture avec les impressionnistes, où à un moment donné, on ne cherche pas à faire le tableau le plus réaliste possible, mais à donner une impression et un sentiment par rapport à une situation. Donc, c'est des espèces de paris, c'est-à-dire que c'est comme une expérience culinaire. Je dois cuisiner telle chose, c'est-à-dire ce texte-là, et mes ingrédients, ce sont ces cinq interprètes, si je puis dire, ça n'a rien de péjoratif. Et avec eux, et en travaillant ensemble, nous essayons de comprendre comment deux personnages peuvent en devenir un, comment un personnage peut totalement disparaître, comment on coupe le texte pour le rendre plus harmonieux, moins harmonieux. C'est une espèce de bidouillage, vous voyez, entre ce qu'est le texte au départ et ce qu'on peut en faire. Et moi, maintenant, avec l'expérience que j'ai, je m'accorde une grande liberté à triturer le texte. à ne pas être, c'est Shakespeare, donc il ne faut pas couper une ligne. De toutes les façons, s'il ne fallait pas couper une ligne, ça ferait 4h30 de spectacle. Donc ça en dissuaderait un paquet de venir voir le spectacle.
Lui, consul, non qu'on l'appréhende. Au nom du peuple, je t'arrête comme traître révolutionnaire, ennemi du bien public, obéi, je te l'ordonne, et suis-nous pour être interrogé.
Arrière, carcasse pourrie où je te secoue les os. Hors de tes guenilles.
Les deux comptaient plus de considération.
Voici celui qui veut vous arracher tout votre pouvoir, saisissez-le.
À bas, des armes, des armes, des armes.
Vous, tribun, parlez au peuple, corrélant de patience, parlez bon, Cécinus.
Peuple, écoute-moi, paix.
Écoutons notre tribun, paix, parlez.
Vous êtes sur le point de perdre toutes vos libertés. Marcius veut tout vous prendre, ce Marcius, que vous venez de nommer consul.
Non, 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 c'est attiser le feu et non l'éteindre. Détruire la cité et tout jeter pas.
Qu'est-ce que la cité, sinon le peuple?
Juste, le peuple est la cité.
Que le mépris te submerge. Qu'a besoin le peuple de ces frustes tribuns? Il s'appuie sur eux et son obéissance fait défaut au Sénat. Ils ont été choisis dans une rébellion.
La mise en scène est le fruit, et c'est un résultat, c'est une photographie finale d'un moment de travail. Donc le moment de travail, c'est la répétition. La répétition est une succession d'accidents, en fait, de choses qui se passent bien, qui se passent mal. Et moi, je suis l'observateur de tout cela, et puis j'essaye de capter des moments.
D'accord.
Tout est au même truc, c'est-à-dire tu césures tes vers, et donc les vers courts n'apparaissent pas. Le courage est la vertu suprême, mais c'est le titre de tout. Fais-le exister, ce truc-là. Laisse-lui de l'écho, c'est ce qu'on a vu hier, tu vois. Tu laisses aucun écho à ce que tu racontes, en fait.
D'accord.
Pa 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 pa. Et il y a deux, trois, quand même, perles absolues, dont tu ne fais rien parce que tu les noies dans le tout, tu vois. Le courage et la vertu suprême... avec la musique que t'as, tout ça, tu vois, laisse-le...
Celle qui en oublie le plus, si cela est.
Celle qui en... Voilà, donc derrière, tu peux rattaquer en représentant. Celle qui en oublie le plus, si cela est. Et puis là, tu peux commencer à raconter ton récit, tu vois.
D'accord.
Guerrier héroïque et vertueux, Coriolan révèle cependant une faille. Son orgueil lui interdit toute marque d'attention à ceux qui pouvaient le promouvoir, mais son amour de la distinction le rend également furieux d'être dédaigné. Shakespeare protège l'intégrité de son héros en attribuant ce désir et l'ambition du pouvoir à Volumnia, sa mère. Plus politique que son fils, elle lui ordonne de composer, mais il ne peut lui obéir sans se dénaturer. Dans cette œuvre chorale, ce dialogue mère-fils apparaît comme un moment suspendu d'une rare intensité, magnifié par l'interprétation des comédiens Alban Guyon et Estelle Meyer.
Laissez-vous conseiller. J'ai un cœur aussi peu souple que le vôtre, mais un cerveau qui guide ma colère au profit de mes intérêts.
Que dois-je faire?
Retourner auprès des tribuns.
Et après?
Rétracter ce que vous avez dit.
Pour eux? Je ne saurais le faire pour les dieux, et vous voulez que je le fasse pour eux?
Vous êtes trop absolu! Sur ce point, il est vrai, on n'est jamais trop noble. Sauf quand parle la nécessité. Je vous ai entendu dire... qu'honneur et politique, amis inséparables, vont de pair à la guerre. Si l'on admet cela, dites-moi ce que dans la paix l'un fait perdre à l'autre pour qu'on ne puisse pas les y associer.
Bonne question.
Si dans vos guerres, l'honneur permet de paraître ce qu'on n'est pas, politique que vous adoptez pour parvenir à vos fins, pourquoi serait-il pire que cette politique tienne compagnie à l'honneur dans la paix comme elle le fait dans la guerre? Si dans les deux cas, elle est également requise.
Pourquoi insister ainsi?
Parce que maintenant, il vous incombe de parler au peuple. Non d'après vos convictions, ni d'après les sentiments que votre cœur vous souffle, mais avec des mots que votre langue connaît, de routine, mots bâtards, syllabes, désavoués par la vérité de votre âme. Mais cela ne vous déshonore pas plus que de prendre une file avec de beaux discours. Pour moi, je dissimulerais ma nature. Si ma fortune et mes amis en danger l'exigeaient, de mon honneur, en ceci je suis, votre femme, votre fils, ces sénateurs, les nobles, mais vous, vous préférez montrer à nos jocrises populaires que vous savez froncer le sourcil plutôt que de dépenser un sourire pour hériter de leur amour et sauvegarder ce qui sans cela va peut-être à sa ruine.
Noble dame.
Je vous présente Alban Guyon, le protagoniste héros de cette pièce qui jouera Coriolan.
Et Estelle Meyer, qui joue la mère du protagoniste et héros Coriolan.
Voilà, c'est un héros qui a l'air presque à la fois courage absolu, roi, héros, Armageddon, Bruce Willis qui sauve le monde, couvert de sang, et en même temps qui a un ego qui paraît énorme, mais en même temps plein d'intelligence, et qui fait une espèce de route comme ça, comme un roman d'initiation tragique. C'est la dernière tragédie de Shakespeare. C'est un personnage à la fois aussi attachant que désespérant, que énervant, que très émouvant.
Oui, c'est un personnage guerrier, puisqu'il commence, on parlera après du rôle de la mère là-dedans, mais il commence la pièce en allant faire la guerre en dehors de Rome. Alors historiquement, c'est un peu parce qu'il y a... Justement, le peuple se soulève par manque de pain. Le peuple a du mal à manger, et donc les Romains partent faire la guerre ailleurs, évidemment, pour récupérer un peu de blé, de choses comme ça. Mais en tout cas, lui, c'est vraiment un héros guerrier, c'est-à-dire voilà, c'est un peu une image presque de dessin animé, c'est-à-dire qu'il arrive dans la ville de Coriolis, à lui tout seul, il tue à peu près tout le monde, il ressort...
Donc seul sur un cheval, couvert de sang.
Voilà, il en ressort comme un grand héros, et pour résumer... Voilà, ensuite, il a plus que 2-3 choses à faire pour accéder à un poste politique important. Mais une fois qu'on lui demande de serrer des mains et de pratiquer en gros un peu la langue de bois...
D'être séducteur, il ne supporte pas.
Il le refuse absolument.
Il est très intègre. C'est en ça où il est à la fois très touchant, parce qu'il ne désavoue jamais son cœur. Et en même temps, c'est parfois un cœur fermé qui a des mépris de classe, enfin des choses qui peuvent... nous choquer aujourd'hui. Donc c'est un personnage qui est très ambivalent, et je trouve que ça serait intéressant pour le spectateur aussi de faire sa route là-dedans, en sortant en plus des élections, en voyant tous les trafics que ça génère d'alliances, de non-alliances, de radicalité ou de compromis. C'est un personnage qui éclaire tout ça, de ses paradoxes. Et c'est vrai que le rôle de la mère est ambivalent, parce que c'est une mère qui, la première phrase qu'elle dit, « Si mon fils était mon mari », donc déjà t'es en plein inceste, c'est un peu flippant, et elle est folle de son fils. Tu sens que, en plus, on a sucré le personnage de la femme qui est très effacée, il a une femme dans la pièce, comme si je devenais vraiment la figure féminine qui entoure... pousse comme une espèce de coach bizarre, décide, un peu marionnettiste aussi avec son enfant, comme si elle-même aussi dans une époque où la femme ne peut pas avoir un rôle politique hors celui des coulisses. Donc c'est aussi, pour moi, c'est aussi un drame féministe, parce que les femmes ne pouvant agir par elles-mêmes, par leur propre force et intelligence, elles devaient passer par des stratagèmes qui sont le fils, les maris, et voilà, ils font tous les deux un parcours aussi... terrifiant, que tragique, que émouvant.
Ouais, absolument. Puis moi, je suis assez d'accord avec ce que tu racontes du féminisme et de... C'est-à-dire que... Alors, effectivement, la mère, enfin, je veux dire, elle l'élève vraiment là-dedans, quoi. C'est-à-dire, elle ne raconte que ça, qu'elle... ce qui lui plaît, c'est d'avoir... Quitte à ce que son môme crève, elle préfère qu'il aille chercher de l'honneur plutôt que de faire autre chose, quoi.
Que de ronronner dans son lit, elle s'en fout.
Et lui, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est... Il est empreint de violence absolument, c'est son langage premier, c'est sa manière de réagir à peu près à tout. Et effectivement, si la beauté que peut avoir ce personnage, c'est sa droiture, elle est poussée à un tel endroit que ça en devient...
Ingérable,
et surtout que ça en devient mortifère, quoi. Mmh. Et de fait, moi, voilà, c'est... J'espère que c'est ça qu'on arrive à raconter aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, moi, je me suis même demandé comment je pouvais jouer ce rôle, à un moment donné, en tant que, justement, étant moi-même plutôt d'un milieu populaire, et voilà, ce mépris des classes populaires, ce refus absolu de la participation du peuple au débat politique, puisque c'est ça aussi, c'est-à-dire, ce qu'il raconte aussi, c'est qu'il refuse absolument toute place au peuple dans le débat politique. Pour lui, ça nuit absolument à la capacité de faire. Et même si, on le sait, une décision est plus compliquée à prendre à 10 que tout seul, ça pose la question aussi, évidemment, de la dictature, entre guillemets, c'est-à-dire d'une seule personne qui a tous les pouvoirs. Bon, maintenant, ça fait un moment qu'on le tourne et qu'on le retourne, quand même, ce texte, et c'est vrai que...
Ça nous dépasse toujours.
C'est des questionnements et des questionnements et des questionnements. Donc c'est d'une richesse infinie. Et
on espère que ça vous parviendra et que ça vous nourrira.
De William Shakespeare, une mise en scène de François Orson, avec Jean-Louis Coulocq, Alban Guyon, Thomas Landbeau, Estelle Meyer et Pascal Tagnati. Hors cadre, les podcasts décalés du magazine Qui. Reportage et réalisation, Jean-Christophe Attard pour l'agence Totem.